Français.
Sauf événement imprévu.
Les rumeurs, les calomnies, les ragots.
Les armes vont parler.
Retournons-nous vers nos amis et néanmoins invités. Retour dans les studios en la compagnie de François Delacroix, le géronte montpelliérain, de Michel Cassard, l'empêcheuse de décentraliser en rond, et de Alain Desbrouillère, l'inévitable biterrois du Clapas. Enfin, que demande le peuple ? Mais avant de revenir sur les thèmes qu'on a choisis, parlons encore un petit peu de flacons et de vin. Est-ce que Montpellier peut devenir une capitale du vin ? Je m'adresse à Michel Cassard et puis à François Delacroix. Est-ce que Montpellier peut devenir une capitale du vin ?
Pourquoi pas ? C'est vrai que moi, je suis plus à même de parler de Pignan. Je reviens toujours sur mon village, mais je vous ai fait découvrir, j'espère que vous le connaissiez, mais découvrir cette cuvée, la Perle Occitane. Maintenant, Montpellier a de très bons vins. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne retrouve pas trop de vins de Pignan sur Montpellier.
Bon, bah ça a peut-être changé, ça. En plus, on fait une belle pub pour ça. Ah, file et flacons, on va faire une petite proboscopie. Là, je me tourne vers François Delacroix. Je suppose avec une écoute attentive de Alain Desbrouillère. Chacun prône des valeurs, c'est la mode. Mais qui connaît le prix d'une valeur ?
Une valeur n'a pas de prix.
Je ferai une réponse d'économiste. Le prix mesure la valeur.
Eh oui, c'est plus tout à fait la même chose. Bon, encore une fois, voilà un socialo qui a pas lu le Capital de Marx. Et comme d'habitude, c'est encore la droite libertarienne qui seule a lu le Capital de Marx.
Pour les capitales du vin, si tu me permets, parce que je suis biterrois, qui a longtemps été annoncé comme la capitale du vin, eh bien, allez voir dans quel état de délabrement est Béziers, et vous n'aurez pas envie de devenir une capitale du vin.
Ce qui n'a pas été le cas au début du XXe siècle, quand même.
Je voudrais répondre à cette notion de capitale du vin. Par rapport au sujet qu'on a abordé tout à l'heure, est-ce qu'il est logique aujourd'hui et intelligent que le département des PO, que le département de l'Hérault, que le département du Gard aillent à Shanghai seuls faire leur promotion de leur petite viticulture, que la région y aille 15 jours ou 3 semaines après ? Est-ce qu'il ne serait pas plus logique, dans l'intérêt du vin, dans l'intérêt du territoire, qu'on ait une collectivité locale qui porte la viticulture pour la totalité des autres, plutôt que de se diviser comme on le fait aujourd'hui.
À savoir Sud de France.
Eh bien, bien sûr.
Et non pas Montpellier Unlimited.
Tout le monde doit être derrière Sud de France au niveau de la viticulture.
Bon, donc...
C'est
vrai que là, je suis un peu d'accord avec vous, monsieur Delacroix. C'est vrai que d'avoir une structure qui porte... Et moi, combien de fois, je l'ai dit à l'aglo, je regrette que parfois, on dépasse les limites, effectivement, qu'on se retrouve à Shanghai ou qu'on aille aux États-Unis et qu'on n'ait pas de retour sur l'investissement, en fait, qu'on fait à l'extérieur. Et c'est ce qui est dommage, parce que pour prendre des décisions importantes, parfois, pour le développement économique, il serait bon qu'on ait des retours sur ce que l'on fait. Et ça, malheureusement, on a du mal à savoir...
Il existe des centaines de terroirs Bourgogne-Bordeaux, mais les gens dans le monde connaissent Bourgogne-Bordeaux, tandis que nous, on veut faire reconnaître...
Fougères, Saint-Gillan et compagnie. Alors, bon, fille du vin, venons-en à Montpellier 2020. Montpellier 2020, si j'ai bien compris, veut bloquer la fiscalité. C'est bien sur une mandature, mais alors comment fonder une politique urbaine dans ces conditions ? Et question précise, comment est-ce que vous financez concrètement vos propositions ? Certainement pas en ayant un train de vie modeste. Vous prenez où l'argent ? Quel sera le rôle de l'adjoint chargé de la question ? Parce que dire on baisse les impôts, ça c'est gentil, d'habitude c'est la droite qui dit ça, mais on va faire ci, ça, mi, etc. Avec quel sou ?
Écoutez, l'État aujourd'hui montre l'exemple. Il faut très rapidement.
Ah bon, j'ai entendu qu'en l'espace de quelques mois, de mai à mars, c'est-à-dire en 10 mois, la dette de la France avait augmenté de près de 300 milliards. Il a fait 50% du boulot que Sarkozy avait fait en 5 ans.
Et le fonctionnement, c'est deux choses totalement différentes. Aujourd'hui, il y a une véritable démarche intelligente, rationnelle de l'État de diminuer les frais de fonctionnement. Je pense qu'au niveau des collectivités locales, il faut faire la même chose. J'ai parfois le sentiment que nos collectivités locales n'ont pas pris conscience qu'on était en crise et en période de crise économique.
Ça fait 40 ans qu'on est en crise, depuis 73.
Moi, j'ai connu les années 90.
J'étais encore tout petit, déjà, on me disait c'est la crise.
Les choses allaient bien, où l'emploi était bien meilleur qu'aujourd'hui, où la croissance était au rendez-vous. Aujourd'hui, on est dans une période où il faut qu'on serre les coudes.
Mais l'emploi irait bien, à condition que les gens veuillent bien travailler. Ils cherchent des milliers de bouchers, personne ne veut faire boucher.
Alors, vous savez que moi, je rejoins encore une fois François Delacroix. Vous allez être étonné. Mais c'est vrai que je rejoins François Delacroix par rapport à ce qu'il a dit. On est en période de crise. Il faut que nous, collectivités, aussi, on montre l'exemple. C'est vrai qu'il y a des moyens de réduire le fonctionnement, certains frais de fonctionnement. On l'a dit, ne serait-ce que tout à l'heure, vous parliez de réduire les indemnités des élus. Nous, à Pignan, c'est ce qu'on a fait. Quand on a été élu, quand mon équipe a été élue en 2008, nous avons réduit de moitié les indemnités des élus. Ce qui fait que chaque année, nous réinjectons plus de 50 000 euros dans le budget de la commune.
Sur un mandat, ça fait
300 000 euros.
Non, c'est pas dérisoire.
C'est pas dérisoire, ça fait 300 000 euros. Pour un village comme Pignan, 300 000 euros, je peux vous dire qu'on peut en faire des choses.
Vous avez un budget de combien par an?
On a un budget en fonctionnement de à peu près de 6-7 millions.
Oh, alors 7 millions et vous économisez 50 000. Parce que je dis, c'est dérisoire.
Non, mais 50 000 sur un an, sur un mandat, ça fait 300 000 euros. 300 000
ah oui, mais 7 millions par an, sur un mandat, ça fait 42 millions. Alors 42 millions, 300 000 euros.
Non seulement on a diminué.
Ça fait 7 à 8 % quand même.
Non,
diminué de moitié. Mais en plus, vous pariez des impôts.
Si 300 000 euros sur 42 millions.
Les taux communaux sur Pignan n'ont pas augmenté depuis 2008. Et je peux vous assurer qu'on a fait d'énormes travaux de lutte contre les inondations qui coûtent plus de presque 4 millions d'euros de coûts. C'est important.
Je vais pas défendre Michel Cassard, mais si effectivement les impôts n'ont pas augmenté, c'est-à-dire que si on fait le décalage de l'inflation, ça fait d'un côté 40, je ne sais plus quel était le chiffre qui était donné, mais ça doit faire au moins 10 ou 12% sur un mandat de 6 ans d'économie.
Non, 300 000 euros d'économie sur 42 millions, ça fait 0,6%.
Quand on propose dans Montpellier 2020, on propose la mutualisation des services. Est-ce que ce ne serait pas logique que des services qui sont transversaux comme les finances ou la gestion du personnel soit unique pour toutes les collectivités locales? Qu'il y ait une vraie réflexion dans ce domaine-là. Pourquoi Strasbourg l'a fait? Pourquoi Alès l'a fait? Pourquoi un certain nombre de grandes agglos aujourd'hui ont engagé ce processus et qu'on est en retard?
Ça, c'est de l'intelligence de base. Bien, on va prendre quelques exemples. Dans Sursaut, là, votre essai sur la question, parlait du photovoltaïque, de la construction de logements, de l'ordinateur pour les enfants, de la rénovation des écoles, des maisons de santé, de la création culturelle. Comment vous financez ça? Par exemple, un exemple, la rénovation des écoles sur Montpellier, sur l'agglo. Je le crois savoir, mais la semaine prochaine, on en discutera plus avant. Ça coûterait 30 millions d'euros juste de rénover, pas de faire des trucs fabuleux, pharaoniques, juste de rénover. Vous les trouvez où, les 30 millions?
On dit d'une façon très très claire que la priorité des priorités pour le futur mandat, c'est l'école primaire. Qui aujourd'hui, 20% des enfants...
Vous les trouvez comment, le pognon?
Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, 20% des enfants rentrent en 6e en ne maîtrisant pas la lecture et l'écriture.
C'est pas la réponse à ma question.
Mais c'est pas la réponse à votre question.
Combien ça coûte? 30 millions. Où vous sortez?
D'abord, ça coûte pas 30 millions parce qu'il faut pas réhabiliter toutes les écoles. Quand on annonce 30 millions, c'est qu'on veut encore faire peur aux électeurs.
C'est
des gens mal intentionnés.
De Montpellier 2020.
Voilà.
De Montpellier 2020.
30 millions, je pense que c'est beaucoup trop. Deuxièmement,
tu mets qu'une couche de peinture.
Il faut toucher. Mais non,
il
faut toucher d'une façon forte les frais de fonctionnement des collectivités locales. On ne peut pas continuer à avoir des collectivités locales qui acceptent que le taux d'absentéisme du personnel avoisine les 17 ou 18%. Moi, quand j'ai quitté l'agglomération, j'avais un taux d'abstention d'absence pour le personnel de 5,5%. Hein ? À la mairie, aujourd'hui, c'est 17%. Hein ? On a des gens qui ont un mal-vivre dans la collectivité locale, qui n'ont pas de projet, qui ne savent pas y adhérer.
C'est peut-être parce que l'élément de roue est fatigante que le personnel est fatigué.
Il ne faut pas personnaliser les choses.
Il
faut voir les choses telles qu'elles sont, essayer de les améliorer. Hein, quand on propose...
Bon, mais on ne sait toujours pas comment vous financez.
S'ils avaient un statut...
Mais si, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mutualisation des services, nombre d'employés qu'on diminuerait...
Ça ne suffit pas pour faire du voltaïque, de la construction de logements, des ordinateurs pour les enfants, des maisons de santé, des créations culturelles. Ça ne suffit pas tout ça.
Je pense que le budget le permet et qu'il y a des choix à faire.
Est-ce que vous l'avez financé, budgétisé?
Oui, on l'a financé.
C'est pas dans le petit bouquin, ça?
Non, c'est pas dans le livre. Et ça sera dans un deuxième document qu'on sortira dans un deuxième temps. Par exemple, on soulève
c'est
un
le
problème.
Sursaut 2, sursaut le retour.
Est-ce qu'il est normal aujourd'hui? On s'interroge. On ne dit pas oui ou non que la collectivité locale agglo dépense 10 millions d'euros.
Arrêtez de vous poser des questions, donnez des réponses.
10 millions d'euros sur le sport professionnel. Est-ce que les fonds publics doivent aller dans des équipes sportives où des joueurs sont payés d'une façon très très élevée. On s'interroge.
Hein, est-ce que vous trouvez normal que l'Opéra Comédie, l'agglomération donne une subvention de fonctionnement, hein, je ne parle pas d'investissement, fonctionnement de plus de 10 millions d'euros. Est-ce que c'est normal?
Sur l'Opéra Comédie?
Sur l'Opéra Comédie. Bien subvention de fonctionnement. Ah non, ah non,
si,
je suis désolée.
L'Opéra Comédie, il a une vocation agglomération. Il n'a pas une vocation...
Je parle d'une subvention de fonctionnement. Quand on voit avec les problèmes qu'il y a à l'heure actuelle sur l'Opéra Comédie, on subventionne. Bon, la rénovation dans le cadre du patrimoine, je suis tout à fait d'accord. Mais une subvention de fonctionnement, 10 millions d'euros, vous vous rendez compte ce que
mais
ça fait?
Vous savez bien c'est que l'orchestre, la musique et la culture, c'est déficitaire. Si vous voulez faire une politique innovante...
Vous préférez l'opéra que le football?
Non, je ne préfère pas l'opéra que le football. Je pense qu'il faut engager des réflexions là-dessus. Hein, aujourd'hui, il y a des quantités d'équipes sportives au niveau national qui n'ont pas les subventions qu'on a au niveau des collectivités locales.
Bon, et puis pour le reste, dans toujours votre petit opuscule sursaut, j'ai l'impression que parfois vous enfoncez les portes ouvertes avec des propositions qui ne relèvent pas des compétences d'une ville. Bon, il faudrait créer des commissariats de quartier, ça dépend de l'État.
Non, c'est pas vrai, il y a une police municipale avec un effectif assez important sur la ville de Montpellier.
Alors,
il y a eu
ça
un temps que j'ai connu...
Combien ça coûte? Comment vous financez?
Je pense que Monsieur Delacroix sera d'accord avec moi lorsque, à l'époque, rappelez-vous, je sais pas, je pense que vous étiez encore DGS, oui, quand j'avais soulevé le problème de la police intercommunale.
Absolument.
À l'agglomération.
Mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait y venir.
Voilà. Mais on y viendra. Mais le problème, c'est que ça tarde. Et c'est vrai que si ça avait été mis en place avant, ça aurait été beaucoup...
Et par rapport au Renard, je lui dirais qu'il y a 10 ans, Jean-Pierre s'en rappelle, il y avait des commissariats de quartier, police municipale, police nationale, et qu'ils ont été systématiquement supprimés. Il faut rapprocher la police... sans coût supplémentaire, des citoyens,
bon,
de la population.
Là, on a une réponse. Mais, par exemple, là, il faut développer, au niveau mairie, le sursaut, le télétravail. Comment une mairie peut développer le télétravail?
Mais vous avez des quantités de tâches de la collectivité
locale. Il faut
locale.
Gérer les collèges et les lycées. C'est le rôle des départements et des régions.
Non, on a
il faut remettre... En, il faut remettre... S'occuper.
Il faut une complémentarité entre le primaire, le secondaire...
Il faut redévelopper le pôle d'excellence universitaire. C'est le rôle de l'État.
Non, c'est le rôle des élus. Là, c'est un gros échec qui pénalise d'une façon grave l'image de Montpellier et l'avenir. Les trois universités avaient pour vocation et avaient comme devoir de fusionner. Elles ne l'ont pas fait. On a manqué un rendez-vous.
Il y en a deux qui fusionnent.
Il y en a deux.
La troisième ne veut pas venir.
Voilà. Je félicite les deux présidents d'université qui privilégient l'intérêt général de Montpellier et de son territoire.
Bon, on va parler maintenant de la nouveauté dans Sursaut. Il y a un nouveau concept, un bidule, que vous avez appelé la slow ville.
Oui.
Bon, c'est assez défini d'ailleurs dans votre petit opuscule. Mais ce serait quoi ça? J'ai pas compris. Un bureau du temps. Eh bien, on a l'impression de retourner à l'époque de Mitterrand avec le ministère du temps libre. C'est quoi un bureau du
temps? Actuellement, dans les grandes villes italiennes, le bureau du temps existe. La ville de Rennes a ouvert un bureau du temps. Il y a un certain nombre de villes françaises qui s'y mettent.
Ça veut dire quoi concrètement?
Il faut réfléchir à la gestion du temps des citoyens de Montpellier.
Gérer 37, le temps des citoyens.
37% des salariés aujourd'hui...
Même Paul Pot, il n'a pas osé.
Non, mais laissez, quand vous posez une question, laissez répondre. 37% des salariés aujourd'hui travaillent aux horaires qu'on appelle normaux. Le reste, ce n'est pas le cas. Est-ce que le tram ne doit pas fonctionner 24 heures sur 24, alors qu'on sait que le premier employeur, c'est l'hôpital, où il y a 12 000 salariés et où les gens travaillent la nuit? Gérer le temps, c'est ça.
Non, mais ils travaillent la nuit, donc ils viennent.
Ils
prennent leur boulot en début de soirée et ils repartent le lendemain.
Non, il y en a qui commencent à 1h, il y en a qui commencent à 2h. Deuxièmement, moi j'ai vécu un événement à Montpellier de la saturation du tram à la gare de Montpellier.
Ah, il fallait passer 4 lignes
Il y avait, il fallait attendre 4 rames avant de pouvoir monter dans une rame le matin à 8h. Pour une simple raison, c'est que les trois universités commencent leurs cours le matin à 8h, tout
non,
en même temps.
C'est pas vrai.
On a décalé.
Mais maintenant, parce qu'on a fait une réunion. Dans un premier temps, Fresh m'a dit, vous achetez 2 rames supplémentaires, 6 millions d'euros. Dans un deuxième temps, on a approché le problème d'une façon différente. On a réuni les trois présidents d'université et on leur a dit, est-ce que vous ne pourriez pas déplacer d'un quart d'heure les heures de début de vos cours? Ils ont accepté. Et on a constaté à la gare une légère amélioration du fonctionnement. Donc la gestion du temps, c'est tous ces problèmes-là.
Bon, je vois aussi que dans
Ça, ce sont des choses, justement, moi, personnellement, je pense que ça rejoint ce que je considère être la première préoccupation d'une ville ou d'un espace, d'un territoire. C'est, à mes yeux, c'est,
faire en sorte que la maison représentée, les gens à l'intérieur puissent vivre de la meilleure façon qu'ils soient. Que ce soit pour l'éducation, le déplacement, etc. Et ça, c'est une chose. Et justement, ce que je n'ai pas trouvé dans Sursaut, c'est effectivement comment vous faisiez référence à la police municipale, qui vient en supplément de la police nationale, pour, justement pour combler des défaillances. De la même façon, aujourd'hui, on constate que Pôle emploi, depuis la réforme, en plus, c'est aggravé, il y a des décalages, il y a une insatisfaction. Pourquoi, effectivement, une municipalité ou un territoire ne viendrait pas au secours de Pôle emploi pour effectivement mettre en liaison les besoins des entreprises du CRU avec le chômage, que ce soit pour trouver des missions partielles, etc. Parce que là, j'estime qu'effectivement, il y a beaucoup de temps de perdu pour les uns et pour les autres. Et pour l'économie. Et je pense que là-dessus, c'est relativement facile. Ce serait relativement facile à faire.
Écoutez, nous,
mais c'est une piste
quand on a sorti
c'est une
ce
piste
document,
de réflexion.
Il y a des manques dans ce document. Il y a des réflexions qu'on souhaite engager avec les citoyens. Hein? Donc cette réflexion, pourquoi pas l'engager avec nous? Hein? Vendredi, on invite Sauterre, l'ancien ministre des Finances de Jospin, à la salle Pétrarque à 18h. Si vous voulez, vous êtes le bienvenu et vous pourriez proposer votre solution.
Mais pourquoi pas ?
Et alors, justement, c'est vrai que dans un petit opuscule, on ne peut pas tout dire, etc. Ouais. Mais enfin, il y a une chose qui, justement, au niveau de la gestion du temps, au sens le plus large du terme, chose, à mon avis, qui manque. Vous avez occulté complètement la question des circuits courts, notamment en matière de commandes faites par la ville, à tous les niveaux. Alors, pourquoi est-ce que vous avez occulté les circuits courts ?
Parce qu'on n'y a pas pensé et que c'est une des idées comme cette.
Heureusement qu'on pense pas à vous. Hein.
Mais heureusement que vous êtes là. Moi, je suis venu ici parce que je pense que vous êtes un citoyen montpelliérain et que vous avez plein d'idées à nous proposer. Mais et ça me fait plaisir.
C'est pas forcément vrai. Quand on regarde la cuisine centrale de Montpellier, elle utilise les circuits courts pour s'approvisionner.
Et puis moi, je connais une élue qui a développé d'une façon remarquable le circuit court. C'est Gabrielle Deloncle, avec le marché d'intérêt national, où aujourd'hui, il y a un accord avec Moggio et avec les maraîchers de Moggio
pour développer... Il est copain Gabriel Deloncle, je le savais.
Qui a développé d'une façon forte les circuits courts sur l'agglomération.
Bon, et puis le transport à 1 euro, ça m'a fait doucement rigoler là. Et pourquoi pas le faire à la Domergue, le transport gratuit, parce qu'à 1 euro, c'est dérisoire. J'ai pris le tramway pendant les vacances, qui m'arrive peut-être la troisième ou quatrième fois depuis que le tramway existe sur Montpellier. J'avais pris comme un couillon mon ticket. J'étais le seul.
Non, n'exagérez pas, il y a 13%.
J'étais le seul à avoir pointé mon ticket. Alors que ce soit des jeunes, des vieux, vieilles, des riches, des pauvres, personne n'a pointé son ticket.
Il y a 13% de fraude. Nous, on a le sentiment... Écoutez, moi, quand Fraîche a voulu lancer les TER à 1 euro, j'ai connu une administration à la région...
C'est une grosse connerie. Il y a 13% de fraude, c'est comme il y a 150 000 femmes qui se font violer. Mais en fait, il n'y en a que 10 000, mais il y en a 90% qui le disent pas. Ah ben, comment on sait qu'ils le disent pas ? Comment on peut savoir qu'il y ait 13% de fraude ? C'est absurde.
Quelle comparaison ?
C'est absurde.
Il vaut mieux que tu prépares l'émission de Radio Divergence plutôt que de les émissions de TADI.
Oui, c'est vrai. C'était sur TADI, ça, à propos du viol. Ah, mais
non,
comment peut-on estimer la fraude ?
J'ai été élu avec Fraîche à la région, l'administration de la région nous expliquait que le TER à 1 euro, c'était financièrement impossible. Aujourd'hui, on constate que le TER à 1 euro, c'est 4 à 5 fois de fréquentation d'augmentation sur les lignes qui sont passées à 1 euro. Dans le département des Pyrénées-Orientales, les bus à 1 euro ont augmenté les recettes d'une façon si conséquente qu'ils équilibrent presque le budget. André Vézinet a fait la même chose dans l'Hérault. Donc on a le sentiment qu'il faut qu'on réfléchisse sur les transports en commun. Pourquoi pas faire les 1 euro pendant les heures creuses pour permettre aux retraités, aux jeunes, les gens au chômage, les jeunes d'utiliser les transports en commun durant la journée et par là même diminuer les embouteillages qui cause une perte de temps, qui cause du stress aux salariés.
Oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas à ce moment-là donner la compétence intégrale des transports à une collectivité qui permettrait à quelqu'un d'Alès ou disons d'un village à côté d'Alès d'acheter son ticket de bus, à la mairie par exemple de son village, de manière à lui permettre de laisser sa voiture chez lui, de prendre le bus jusqu'à la gare d'Alès, puis avec le même ticket sans bouger de prendre le TER, puis de sortir, admettons, à Nîmes ou à Perpignan et de prendre le bus qui va l'emmener à Mias par exemple pour rencontrer...
Monsieur Foubert, c'est une évolution que je partage totalement. Parce que moi, je pense Plus je vous entends, on aurait dû travailler ensemble. Je crois qu'ensemble, on aurait fait des choses merveilleuses.
Monsieur Lacroix, vous êtes pervers. Mais non, mais je pose un problème. Est-ce qu'il est normal que quelqu'un prenne un TGV à un TER à 1 euro et en même temps paye 6,50 euros de parking Lunel, par exemple, pour laisser sa voiture toute la journée?
Pour nos auditeurs, c'est complètement incohérent. Il faut quand même qu'ils sachent que le camarade de Lacroix et le camarade Foubert ont bossé ensemble pendant près d'une vingtaine d'années au cabinet de Georges Fraîche.
Là, il faudra gérer le temps. Hein, parce que
je ne sais pas qui a supporté plus là.
À l'aise Montpellier, moi je l'ai fait lorsque j'ai été victime là, de... où j'ai eu la suppression de mon permis de conduire. Ça, c'est une autre histoire. Et j'ai fait à l'aise Montpellier. Et puis je peux te dire une chose, c'est qu'il te faut passer par Nîmes avec le train. Après, il te faut une correspondance entre Nîmes et Montpellier. Et quand tu arrives...
C'est pour les retraités, ça.
Non, moi, je suis pour le développement du transport en commun, bien sûr, comme tout le monde. Mais il faudrait quand même qu'il y ait des fréquences.
Il reste 30 secondes. Nous en sommes quand même très loin sur ce débat, je vois qu'on y vienne. C'est que je lisais, je ne voyais rien. Et d'un coup, si à la fin, je vois venir le tourisme. Je dis, ça y est, c'est quand même la richesse économique numéro un de la région et de Montpellier. Et là, au niveau de vos propositions, alors, c'est un grand bazar. On se demande si vous y avez vraiment réfléchi. Pourquoi pas proposer simplement la création d'une agence publique de tourisme réceptive, comme ça existe en Bretagne, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais?
Au niveau de Montpellier, il y a déjà une réalité. Il y a une seule structure pour diriger le Quorum, le Zénith et la Foire Expo et la Grande Salle.
Non, mais ça, c'est du business, c'est pas du tourisme, mais, ça. Hein,
et à un moment donné, il faudra que les offices du tourisme soient sous la compétence et la responsabilité de l'aglo pour qu'on ait une seule structure pour accueillir les touristes.
Voilà, c'est pas dit dans le petit bouquin.
Si vous me permettez d'intervenir en tant qu'ancien directeur du master de droit du tourisme, fac de droit, sur ces histoires d'agence, c'est réceptive. C'est bien joli, mais c'est une vision étatiste centralisatrice. L'essentiel des acteurs du tourisme sont des acteurs privés. Et quand on leur propose une structure coopérative, il faut savoir qu'il y a un prix à payer. On achète à l'année les chambres d'hôtel, par exemple, mais ensuite, on les revend. Or, celui qui a une chambre d'hôtel préfère être libre de faire payer le prix qu'il veut fort tôt entre juin et septembre, et il se fout pas mal que ce soit vide en décembre et en novembre, plutôt que de vendre sur l'année un prix moyen qui sera géré par une structure publique. Et ça n'a jamais marché dans cette région. J'ai fait faire des mémoires par mes étudiants là-dessus, ça n'a jamais marché, et ça ne marchera jamais.
Bon, donc il y a encore carrément du boulot là-dessus.
Il y a deux types de tourisme, il y a le tourisme des gens qui viennent de l'extérieur à l'intérieur, mais il y a le tourisme local, c'est-à-dire des gens du Languedoc-Roussillon qui veulent connaître le Languedoc.
Oui, absolument. Bah, définitivement, Sursaut, là, on a appris qu'il y aurait un tome 2, donc Sursaut, le retour. Mais là, pour l'instant, ça ressemble un peu à un brouillon de propositions électorales pour aider un futur candidat à la gestion de la métropole plutôt que l'ébauche vraiment d'un programme municipal.
Want to sign check, c'est okay.
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.